Le magazine des sports que nous ouvrons évidemment par l'événement qui va nous accaparer pendant encore au moins 6 semaines, c'est la Coupe du Monde de football.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
Et aujourd'hui, pour ce mondial aux Amériques, on suivait les matchs pour le compte du groupe E et du groupe F,
Mikhail Dzieniecki. Oui, exactement. Et tout d'abord, dans le groupe E, l'Allemagne qui a bien géré, c'est rien de le dire, son premier match de la compétition. Et oui, la Mannschaft qui l'a emporté ce matin très largement sur la modeste sélection de Curaçao. 7 buts à 1, les Allemands qui nous offrent le premier festival offensif de ce mondial. Des réalisations signées Mensa, Schlotterbeck, Musiala, Brown, avait un doublé d'Avertz, un but sur pénalty notamment, deux réalisations qui lui permettent de prendre déjà la place de meilleur buteur. Après donc ce carton plein contre une sélection, on le rappelle, hein, Curaçao qui joue sa première Coupe du Monde. Dans cette même poule, la Côte d'Ivoire affronte en ce moment même l'Équateur. Un match assez fermé, hein, puisque désormais à environ une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire, le score est toujours de 0-0 entre les deux formations. On passe au groupe F à présent et ce très beau duel qui a livré une petite surprise ce matin. Les Pays-Bas accrochés par le Japon. Score final 2-2. Les vaillants Blue Samurai, comme on les appelle, ont à chaque fois réussi à revenir au score. Une égalisation notamment juste avant la fin de la partie signée Kamada. On a surtout une droite donc à une très belle opposition. Un match plein du beau jeu pour les spectateurs, sans doute la plus belle des rencontres depuis le lancement de cette Coupe du Monde. Les Japonais prouvent qu'ils seront en capacité de poser des problèmes dans ce mondial et pourquoi pas rêver d'une nouvelle belle aventure après s'être déjà hissé, je le rappelle, à 4 reprises en 8e de finale, évidemment dans les anciens formats de Coupe du Monde. Dans le même groupe, notez que cet après-midi la Suède sera opposée à la Tunisie à partir de 13h. Allez, un rapide récap des matchs disputés notamment ce dimanche. La victoire dans le groupe D de nos voisins australiens sur la Turquie, l'Australie qui l'emporte 2-0 pour son entrée en lice. Dans le groupe B, le Qatar et la Suisse ont fait match nul, 1-2. Dans le groupe C, hein, vous le savez, le Brésil et le Maroc se sont neutralisés, 1-2. C'était la première grande confrontation de cette Coupe du Monde. La Seleção, quintuple championne du monde, et les Marocains, demi-finalistes du dernier mondial. Dans ce même groupe, l'Écosse a battu Haïti 1-0. C'est-à-dire que les Écossais prennent donc les commandes du classement. Allez, encore un petit coup d'œil à ce qui nous attend demain. Il y aura un duel Espagne-Cap-Vert à partir de 3h pour les Lefto, tandis que l'Arabie Saoudite sera opposée à l'Uruguay à partir de 9h, ça ce sera pour le compte du groupe H. Et puis dans le groupe G, la Belgique retrouvera l'Égypte à partir de 6h, une belle affiche en perspective. Et l'Iran retrouvera de son côté nos voisins néo-zélandais, la sélection de Nouvelle-Zélande. Un match à suivre à partir de midi ce mardi.
Et la France dans tout ça, Mickaël, eh bien il faut attendre encore 2 jours avant qu'elle fasse son entrée dans la compétition.
On ne cesse de le répéter, les Bleus qui débuteront contre le Sénégal, les tricolores qui sont au grand complet dans leur camp de base à Boston. Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de l'équipe de France, espère bien que les Bleus réussiront leur entame de mondial.
Franchement, tout se passe bien. On a un bon groupe, on rigole. La concurrence, elle est saine. Tout le groupe vit bien. On est tous très contents d'être ici. C'est une Coupe du Monde. On va essayer de remporter, bien sûr, tous les matchs avant tout. Et franchement, juste kiffer, prendre du plaisir tous ensemble et aller gagner cette Coupe du Monde pour la France.
On l'espère aussi. France-Sénégal, en attendant, premier match des Bleus sur la pelouse de New York City à suivre mercredi matin. Le coup d'envoi sera donné à 6h, heure de Nouméa.
La ferveur autour du Mondial jusqu'en Calédonie et en plus c'est la période des vacances scolaires, ce qui veut dire que les plus jeunes notamment ne manquent pas cet appel à la passion du ballon rond. Des stages sont organisés à leur destination par les clubs. Illustration avec Rennes et Léonis ainsi que leur encadrant Jérôme. Ils profitent de mener une action autour du football au profit de leur association Boca Junior École de Foot Mixte.
Oui, j'ai vu Brésil-Maroc. C'était net. C'est Maroc qui a marqué le premier but. Après, c'est Brésil qui a rattrapé. Mais c'est match nul, du coup. Voilà. Le Paraguay et puis les États-Unis. Ouais, c'est bon. C'était net.
Vous avez une équipe favorite, vous, dans la mondiale?
Brésil.
Alors là, c'est quoi l'action du moment que vous faites avec eux?
En fait, là, on vend des pochettes surprises. C'est pour payer leur trajet pour le Nord, pour le Poneroin. À Chamba, c'est pour rencontrer des jeunes, pour
s'entraider entre eux, ben, pour le sport, tous. Se partager, quoi. Si vous voulez participer, on est au kiosque à musique. Si vous voulez acheter nos pochettes ou avoir des participations.
Ben, du coup, on va aussi envoyer des pochettes surprises à 1000 francs pour financer notre déplacement dans le Nord. Faire des rencontres avec les jeunes, des rencontres sportives, et puis voilà.
Vous allez réussir quand même à suivre tous les matchs tout en faisant ça?
Peut-être pas.
Voilà, ce n'est que le début, puisque la Coupe du Monde 2026, je vous le rappelle, se terminera le 20 juillet prochain.
Et le but ! Avec Azure Piscine, vos invités peuvent célébrer les buts en plongeant ou se rafraîchir à la mi-temps. Et pour l'ambiance, nos salons de jardin, pergolas, barbecue et canapés transforment votre terrasse en loge présidentielle. Azure Piscine et Outdoor, deux magasins, Magenta et Païta, 46 42 42.
Allez, retour en métropole pour la suite et bientôt la fin de la saison de Top 14 de rugby.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
C'était ce week-end les barrages d'accession aux demi-finales de Top 14. Le dernier barrage ce matin a livré son verdict et le Stade français a battu le Stade Rochelais et décroche sa place dans le dernier carré.
Oui, le Stade français, on le rappelle, troisième de la saison régulière qui accueillait donc la Rochelle. Les Rochelais qui s'étaient qualifiés in extremis pour les play-offs en terminant le championnat à la sixième place. Ils n'ont donc pas réussi, ces malheureux Rochelais, à inverser la vapeur. Ils se sont inclinés lourdement aujourd'hui face aux Parisiens. Score sans appel, 45 à 5. Le Stade français affrontera donc Montpellier dans une semaine en demi-finale. Le Racing 92, de son côté, a battu la section paloise 33 à 31. Les Racingmen affronteront, eux, Toulouse en demi-finale. À noter enfin que Perpignan a réussi de son côté à se maintenir dans l'élite. L'USAP a remporté le barrage contre Provence Rugby, deuxième de Pro D2, sur le score de 47 à 24.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
C'était week-end de Grand Prix en Catalogne sur le circuit de Barcelone, Michael, et la victoire de Lewis Hamilton. Premier succès chez Ferrari pour le Britannique et surtout première victoire depuis 2024.
Lewis Hamilton de nouveau au sommet après deux ans de disette sans la moindre victoire. 106e succès en carrière. Le Britannique qui a devancé son compatriote George Russell, ancien coéquipier chez les Flèches d'Argent, qui s'était pourtant élancé de la pole position. Lando Norris sur McLaren s'est classé 3e. Un podium donc 100% en britannique. En tout cas, Lewis Hamilton, à 41 ans, était ému de retrouver la joie de la victoire.
C'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est difficile de trouver les mots, mais à la fin, j'ai beaucoup de gratitude et je suis extrêmement fier de l'équipe. Et ça m'a vraiment rappelé qu'il ne fallait jamais abandonner. Mais à chaque fois que vous tombez, il faut remonter. Même si vous tombez 100 fois, il faut repartir. Et la persévérance paye vraiment.
Et côté français, Isaac Hadjar s'est classé 6e sur Red Bull, tandis que Pierre Gasly a terminé à la 7e place, juste devant son coéquipier de chez Alpine, l'Argentin Franco Colapinto. C'est donc un doublé de l'écurie française dans le top 10. Esteban Ocon, le dernier tricolore, a terminé à la 13e place. Le championnat du monde qui pourrait bien être relancé après cette performance au Grand Prix de Barcelone, puisque le leader Kimi Antonelli sur Mercedes a dû lui abandonner à 5 tours de l'arrivée. Lewis Hamilton est donc revenu en deuxième position à l'issue de cette 7e manche du championnat du monde.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours, puisque c'était les 24 heures du Mans aussi ce week-end et la victoire finale de la Toyota numéro 7 après une course très serrée.
L'écurie japonaise qui renoue avec la victoire pour seulement 10 secondes de mieux que la BMW numéro 20. La deuxième Toyota complète le podium. Si les trois dernières années avaient vu les Ferrari régner en maîtresse dans la catégorie hypercar, on a donc eu droit cette fois à une épreuve d'endurance serrée jusqu'à son terme sur le tracé de la Sarthe.
Et puis un mot de cyclisme, le Mexicain Isaac Del Toro remporte la 8e étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ex-Dauphiné. Il s'adjuge au passage la victoire finale devant l'Australien Luc Tecuel et l'Espagnol Juan Ayuso. Le Français Paul Sexas a abandonné, affaibli par sa chute sur l'avant-dernière étape alors qu'il était 6e au classement général. Midi et 2 minutes, une pause dans ce magazine des sports avant de voir l'actu sport en Calédonie. Nous allons parler notamment des perspectives pour le cyclisme. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
La deuxième mi-temps de votre magazine des sports avec Jean-François Baudin.
Oui, elle est consacrée au sport en Nouvelle-Calédonie. Avant de revenir sur les principaux résultats du week-end, on va donc, comme je vous le disais, parler cyclisme, Mickaël, avec notre invité.
Exactement, David Chavitz, le président du comité régional de cyclisme. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation ce midi. L'actualité du cyclisme, effectivement, qui est dense déjà sur le territoire, évidemment, depuis le début de l'année. Tout d'abord, discipline par discipline. Voilà, c'est un petit peu les fruits qui commencent à donner tout ce qui a été semé en amont, sur route, sur piste, tout terrain et le BMX, tout est en pleine évolution actuellement, hein, c'est le cas de le dire.
Oui, on a, c'est vrai qu'on a beaucoup de disciplines et on a beaucoup d'événements sur chacune des disciplines, avec notamment le BMX qui a démarré fort l'année dernière. Cette année, ça continue aussi fort, donc on a vraiment une explosion des licenciés sur cette discipline-là, avec beaucoup de jeunes. Là, notamment cette semaine, on a des stages BMX, enfin pendant les vacances, donc on a des cours BMX aussi, quasiment, enfin trois soirs par semaine. Donc voilà, beaucoup d'activités. On a mis en place une coupe de Calédonie BMX avec quatre épreuves pour l'instant. Donc il y en aura une fin juin, donc sur la piste de Tina. Donc voilà, c'est vrai que c'est en pleine évolution et on espère l'année prochaine pouvoir emmener des jeunes aux Océania. Donc on sait que les Océania, c'est vraiment la compétition de référence dans la région. En plus, on a toutes les catégories d'âge qui peuvent être représentées. Donc voilà, c'est un gros objectif. Donc voilà pour le BMX. Ensuite, les autres disciplines un peu plus traditionnelles. Donc la route aussi, on a pas mal de courses, pas tous les week-ends.
Il y a eu des belles épreuves depuis le début de l'année.
Ouais, c'est ça, il y a eu pas mal d'épreuves. On a encore le week-end prochain une épreuve à la fois, donc organisée.
On va en parler dans un instant, voilà. Ça. Ouais.
Pour nous, le gros objectif sur la route, c'est le Tour Tahiti, qui aura lieu en septembre, une grosse préparation en vue des Jeux du Pacifique. Donc voilà, c'est autant chez les femmes que chez les hommes, c'est vraiment l'objectif de la saison. Ensuite, on a la piste aussi qui continue, hein, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont sur la piste. On a eu les Océania en février aussi avec les jeunes. Après, on a eu les championnats d'Australie, donc sur lesquels on a pu envoyer des jeunes de 13-14 ans, donc qui sont très bien débrouillés. Ouais. Et donc, ça fait une belle perspective en vue du championnat de France à venir qui aura lieu en octobre en métropole.
Alors,
il restait le VTT, mais le VTT, voilà, ça commence à être bien établi en Calédonie. On a beaucoup de sites de pratique. Donc, on voit aussi qu'on a, au niveau de chez nous, des bénévoles. On a beaucoup de gens qui ont souhaité s'investir cette année. Donc, on aura un gros événement le 11 juillet au Boucle de Tina, en parallèle d'une compétition BMX. Donc, ça permettra vraiment que toute la famille VTT se regroupe à Tina.
Ouais, j'allais dire, là c'est ça, à travers. Bon, ça vous fait beaucoup de boulot, on le suppose, au comité avec l'ensemble des bénévoles.
Oui, en fait, heureusement, cette année, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues, qui nous ont rejoints. Et là, vraiment, il y a une dynamique qui s'est créée au niveau des bénévoles. Ça permet vraiment d'organiser pas mal de compétitions, d'événements. Et voilà, ça fait plaisir, notamment pour les jeunes.
Et alors, au niveau pour le peloton, justement, les participants, ceux qui profitent de tous ces événements que vous organisez week-end après week-end, ça crée désormais une belle émulation. Il y a tout le travail de le CV, l'école calédonienne du vélo, qui apporte pas mal, qui met aussi sa pierre à l'édifice.
Oui, en fait, il y a un peu tous les clubs. Hein. C'est vrai que chez les jeunes, on a 3-4 clubs qui toutes les semaines organise des séances d'école de vélo. Donc on a le CV, on a le VCC Mondor, on a VTT Patient. Enfin on a voilà, et donc on a plein de jeunes qui commencent à sortir. Et donc oui, ça permet d'avoir pas mal de monde chez les jeunes, mais on a aussi pas mal de monde chez les plus anciens, on va dire, et chez les féminines aussi. Donc ça permet d'avoir des courses, notamment avec les objectifs des Jeux du Pacifique. On voit vraiment qu'il y a une émulation au niveau des compétitions. Donc voilà, ça fait plaisir.
Au niveau de vos chantiers, hein, depuis que vous avez pris la présidence du comité, c'est vraiment ça, là, c'est faire, on va dire, fructifier tous les chantiers qui ont été lancés, voir sur quelle dynamique continuer d'avancer, en fait.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, on sait que le gros chantier qui avait été lancé, c'était le BMX, puisqu'on avait une piste flambant neuve avec un standard national, voire qui permet d'organiser des Océania, par exemple. Donc c'était vraiment le chantier phare. On a recruté un éducateur. Ça faisait longtemps que le comité de cyclisme n'avait pas eu de salariés. Donc voilà, c'était un peu nouveau pour nous tout ça. Et c'est vrai que ça nous permet d'attirer du monde, d'attirer des jeunes et voilà, de développer la discipline.
Alors, on parlait d'un événement tout à l'heure, le week-end prochain, justement, que je reprenne mes fiches. Voilà, ça se passera du côté de La Foix, le Grand Prix cycliste Shell Pacifique, le Prix Francine Moglia VTT Cross Country le samedi, le Prix Reine Dufieux sur route le dimanche. Voilà, c'est aussi, toutes ces passerelles entre les différentes disciplines, c'est ça aussi qui permet de maintenir un peloton, des effectifs de plus en plus importants sur chaque épreuve.
Bah, oui, en effet, on a des week-ends avec deux épreuves, donc ça permet d'avoir du monde qui vient et qui profite et qui monte sur La Foix pour deux épreuves. Donc ça permet vraiment aux gens de dire on part pour un week-end, donc c'est bien. Et donc c'est vrai que là, en plus, VTT route, là on est sur des disciplines qui vont être représentées aux Jeux du Pacifique. Donc pour nous, c'est un peu, ça permet aussi de voir les futurs compétiteurs, d'évaluer un peu le niveau des gens et puis de voir qui pourrait être dans la sélection de l'année prochaine, parce que là il y a de gros enjeux. Donc c'est vrai que, et en plus on a de plus en plus de clubs qui font ces formats-là sur deux jours. Donc là c'est la JSLF qui organise, et c'est vrai que ça permet d'attirer beaucoup de monde. Ouais.
Alors, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, les Jeux du Pacifique Tahiti 2027, évidemment, c'est l'un des grands objectifs en ligne de mire. On va revenir un peu après sur le cas de tous nos sportifs qui sont désormais du côté de la métropole, qui ont beaucoup bougé ces derniers temps, en tout cas. Mais déjà, à l'heure de commencer de peaufiner une sélection en vue de cette grande échéance, les ambitions, évidemment, ça serait d'aller conquérir l'or.
Ah ben, en effet, ouais, l'objectif, clairement, c'est d'aller chercher des médailles d'or. Autant chez les filles que chez les garçons. Donc on sait qu'on aura deux disciplines, donc le VTT et la route qui seront représentées. On aura des concurrents aussi, puisqu'on sait que les Tahitiens sont aussi de très sérieux concurrents, et donc il y aura du boulot. Mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vraie dynamique, ces Jeux du Pacifique. Donc le cyclisme, ça fait, je pense, au moins 15 ou 20 ans qu'ils n'avaient pas été représentés aux Jeux. Donc là, c'est vraiment une occasion de se montrer, ouais.
Alors, malheureusement, le temps qui va venir à nous manquer, tellement l'actualité était dense, mais il faut revenir aussi sur encore plus loin que ces Jeux du Pacifique. Pour les jeunes, hein, on le disait, il y a eu une actualité dès le début de cette année assez dense, hein, notamment, tout d'abord, je vais vous demander d'enlever la casquette du président du comité que vous êtes, et puis revenir à celle du papa, puisque Louise Chavitz, notamment, il n'y a pas qu'elle, mais Louise Chavitz, notamment, en équipe de France pour un stage avant les championnats d'Europe, elle était du côté de l'Allemagne, elle était à la Coupe de l'Avenir, fin avril, et puis voilà, tous ceux qui l'accompagnent, enfin ils sont pas tous dans les mêmes clubs, mais tous ceux qui sont dans cette aventure, souvent du côté de la métropole, là aussi il y a des résultats très prometteurs, on peut voir encore plus loin.
Bah oui, en effet, parce que bon, on parlait de Louise, donc Louise devrait participer donc en juillet, en août, au championnat d'Europe et au championnat du monde, donc en équipe de France, donc c'est vraiment l'objectif pour elle. Après on a beaucoup d'autres jeunes, on a aussi Paul Roy, on a Hugo Pommelet, on a Kirill Moutry qui est en Nouvelle-Zélande, on a Hervé Salin, enfin voilà, il y a beaucoup de jeunes et qui ont envie de performer et qui font en sorte de réussir. Donc ouais, ça aussi c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous.
Ça aussi c'est l'heure de récolter les fruits. Finalement, tous ces jeunes, ils se côtoyaient, ils étaient dans les mêmes courses, dans les plus petites catégories il y a encore quelques années en arrière, et désormais c'est un sacré peloton dans le haut niveau que vous avez envoyé un peu à droite à gauche. Il y a aussi des belles performances, vous le disiez, Nino Durand, hein, du côté de l'Australie.
Oui, c'est ça. Ben, on voit chez les jeunes, donc Nino qui était que U15, donc qui est très jeune. Et donc ça, c'est vrai que ça offre des perspectives, ça montre un peu la voie à tous ceux qui viennent derrière, parce que là, on a aussi besoin d'avoir des jeunes qui puissent venir dans les clubs et dans le pôle espoir pour pouvoir ensuite accéder au haut niveau.
Eh bien, on espère le meilleur. En tout cas, voilà pour le cyclisme calédonien. Merci encore David Chavitz, le président du comité régional de cyclisme, d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci à vous.
Voilà donc pour cette actualité du cyclisme en Calédonie. On va maintenant revenir pour terminer ce magazine sur les principaux résultats du week-end sport avec le Trail des Cagous notamment. Il se courait hier à Boulou-Paris.
Oui, la 15e édition et les plus aguerris qui s'est lancé notamment sur le parcours SFAC 47 km. Gabriel Espada s'est imposé 4h27 minutes et 7 secondes d'effort pour devancer Antoine Barguin et Ludovic Lanceleur qui a lui terminé 3e, premier chez les Masters. Chez les féminines, c'est Leslie Novicki qui s'est imposée. Elle a terminé 6e au classement scratch, sous la barre des 5 heures. Gabriel Espada qui était heureux de décrocher cette victoire de prestige, et oui, à l'approche de son départ prochain du territoire.
Le Trail des Cagous, qui est la doyenne des courses calédoniennes, avec ce fameux bouclier où est inscrit les noms des vainqueurs, je vais pouvoir y laisser mon nom après avoir été le poulie d'or de la course sur ces trois dernières années. Je remporte la victoire et ça met un joli bouquet d'honneur sur ces 3 ans. Sur le parcours, donc contrairement à l'année dernière, qui était des conditions dantesques avec de la pluie, de la boue, énormément de passages de rivières, cette fois-ci, on a eu un climat déjà sec, pas de grosse chaleur, et un terrain très roulant, des magnifiques points de vue sur le Huit-Tambeau, le Mondeau, vraiment des sommets qui sont magnifiques, un très très beau parcours avec une signalisation qui était vraiment impeccable. Le terrain était nettoyé, mais à la perfection. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, c'est ce qui en ressortait avec tous les coureurs à la fin, c'est que c'est une des meilleures éditions qu'il y a eu là sur les 3 dernières années, en tout cas, éblouissant.
Il y avait bien entendu des courses intermédiaires pour ceux qui voulaient profiter simplement d'une belle aventure sur le 24 km terre de running. On signalera le succès de Julien Béranès chez les féminines. Johanna Draghici a été la plus rapide sur le 12 km La Cabosse d'Or. C'est Timéo Bovi qui l'a emporté.
Et c'était aussi ce samedi le coup d'envoi de la saison des courses hippiques avec un premier rendez-vous sur l'hippodrome Banu de la Foix.
Et sur l'épreuve reine, la Foix classique, distance 1300 mètres, la victoire est revenue à Harry Potter, le cheval de Christian Kauma qui a devancé Billy of Rose de Nadir Boufnesh et The Star de Steven Adam de Villiers pour compléter le tiercé. Une journée riche en enseignements, nous a dit le président de la Fédération des courses hippiques, Nicolas Schneider.
On a pu voir effectivement de beaux chevaux sur l'hippodrome, les socioprofessionnels effectivement impliqués avec toujours autant de passion et puis le public qui s'était déplacé. Tout ça, ça a fait un très bon cocktail et il y avait tous les ingrédients pour faire une belle journée de reprise pour cette saison hippique 2026. À la fois classique, c'était l'épreuve attendue puisqu'on retrouve beaucoup des protagonistes qu'on retrouvera forcément au départ de la Casino Coupe Clark du Centenaire dans quelques mois. Une distance plus de vitesse, 1300 mètres, alors c'est un sprint un peu plus long qui permet de regrouper des chevaux rapides et des chevaux plus de tenue. On a un cheval qui s'illustre à chaque fois dans ce type de conditions, un cheval passe-partout. C'est Harry Potter qui l'emporte cette année. Il avait échoué l'année dernière à la seconde place. Cette année, il prend sa revanche et remporte brillamment cette La Foix Classique 2026. Sur son dos, on retrouve Anthony Karamanolis qui cumule 4 victoires sur cette réunion d'ouverture où on a vu briller notamment l'écurie de Watom entraînée par Christian Kauma qui a resté effectivement 4 victoires sur les 6 courses proposées au programme de course en ligne.
Voilà le bilan de cette première réunion de l'année de Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques. Prochaine date pour les courses, ce sera le 27 juin, cette fois à Boulou-Paris.
Allez, le moment à ne pas manquer dans ce magazine des sports, Mickaël, le reste des résultats sur le territoire.
Oui, du football, tout d'abord les résultats de la 11e journée de Super League et Leslie aussi qui l'a emporté sur le CA Saint-Louis sur le score de 2-1. Romain, Gaïcha et Cognier se sont quittés sur un nul, un but partout. Magenta l'a emporté sur Le Mondor 4-0 pour reprendre la tête du classement. Et enfin, Tiga l'a emporté sur Horizon Sport 3-2. Le basket 3-3, la Nation League du Pacifique, moins de 23 ans, qui continue, hein, on vous en a déjà parlé sur RRB, ça se passe à la salle Omnisport de Lens-Vata. Alors ce dimanche, c'était jour de repos pour les sélections. La compétition va aller jusqu'au 17 juin. La Calédonie, mais aussi les Tonga, les Fidji, les îles Salomon, tous qui veulent décrocher leur billet pour la Coupe du Monde de basket 3-3. Autant dire que depuis le coup d'envoi, c'est la sélection des Tonga, chez les garçons comme chez les filles, qui domine les tournois. Il reste encore 3 journées de compétition à la salle Omnisport de Lens-Vata. Ça reprend dès ce soir. Enfin, hors du territoire, la belle performance du week-end, c'est en para-tennis de table avec Delphine André qui ajoute une ligne de plus à son palmarès déjà très rempli en tant que pongiste ou en tant que nageuse. Au championnat de France, donc sport adapté de tennis de table, elle a décroché une nouvelle médaille d'or dans la catégorie double dame.
Merci beaucoup Mickaël, midi et 18 minutes, c'est la fin du Mac des Sports. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera à 13h pour le rappel des titres. Ce sera la fin d'Infomag, mais jusque-là, c'est Pierre évidemment qui vous accompagne. Je vous souhaite une belle après-midi.